Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité, c'est...
Géraldine Marié.
Géraldine. Alors avec Géraldine, nous nous connaissons aussi depuis longtemps, comme beaucoup de mes invités. Géraldine, j'ai connu très jeune, c'est encore une très jeune femme et une jeune maman. Je l'ai connue très jeune. Et Géraldine, en fait, un jour que nous fêtions mon anniversaire, a appris que j'allais me former au coaching. Et Géraldine m'a dit, je veux être ta première cliente. Alors, je la connaissais suffisamment, mais en même temps, pas trop intimement pour accepter, en effet, d'être, qu'elle soit ma cliente. Et en effet, elle a été ma première cliente. La première à me faire confiance dans mon nouveau métier, ma nouvelle vie, ma nouvelle passion, ma nouvelle raison d'être. Merci Géraldine et merci d'être là ce soir pour nous parler du bonheur.
Merci à toi pour ton invitation.
Alors Géraldine, pour nos auditeurs, qui es-tu ?
Alors je suis arrivée dans ce monde il y a un peu plus de 40 ans. Ce qui m'anime particulièrement, c'est la relation à l'autre, la relation à soi, à relation au monde, en tout cas ce qui fait le lien. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée et je continue à vraiment être passionnée en fait par cette question du lien. Du lien, qu'est-ce qui fait qu'on est relié ? Qu'est-ce qui fait qu'on est relié là dans ce monde ? Voilà, ça fait partie de mes grandes questions et puis de ma grande passion, hein, c'est sûr.
Se relier à soi, se relier à l'autre, se relier au monde. Moi, je te vois comme un de ces multiples traits d'union, en fait. Tu sais, un trait d'union entre le bien et l'être. Parce que tu pratiques aussi des techniques qui permettent aux gens de se sentir bien et de se connecter à leur être. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je suis sophrologue. Et effectivement, ce métier, il me permet aussi vraiment de faire l'expérience, d'expérimenter chaque jour ce lien à ce qui est très profond en nous. J'aimerais, moi, voilà, cet inconscient, en fait, qui est lié à notre émotionnel. Et c'est vrai que j'explore ça depuis maintenant plus de 10 ans, depuis que je fais ce métier. Sophrologue, je l'explore pour moi, je l'explore aussi pour les personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que c'est infini en fait, cette exploration à ce lien profond en nous et puis au lien aussi vertical, c'est-à-dire le lien entre la terre et le ciel.
Quand tu dis infini, ça veut dire que c'est vraiment un champ d'investigation, un champ d'expérimentation, un champ de recherche, d'études, de découvertes.
Oui, c'est vrai qu'avec toutes les réflexions, toutes les études qui sont faites en matière de neuro, hein, neurosciences, on voit bien que là, on est en train de faire des découvertes qui expliquent mieux cette force, cette puissance de l'inconscient. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'études aussi qui viennent maintenant mieux expliquer, mieux faire comprendre ce rôle de l'inconscient, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères derrière.
Le grand mystère de l'inconscient.
Oui.
Et cet inconscient, aujourd'hui, tiens, est-ce qu'il participe aussi à ton bonheur ?
Alors oui, parce que depuis que j'ai découvert effectivement, c'est la méditation, c'est la sophrologie, l'hypnose, j'ai accédé à cette dimension plus cachée, en fait, plus invisible. Et depuis que j'ai plus accès à cette dimension-là, là vraiment, j'ai vu la vie se simplifier, se faciliter, se clarifier. Il y a eu beaucoup de clarification en fait en moi, mieux comprendre des émotions qui étaient là, pouvoir aussi les libérer. Il y a eu beaucoup beaucoup pour moi de libération émotionnelle aussi. Donc c'est sûr que depuis que j'ai accès à cet inconscient, je me sens beaucoup plus moi-même, beaucoup plus libre de faire et d'être qui je suis.
Donc ça veut dire que plus on plus on avance dans cette conscience de soi,
ouais.
Plus on vient justement essayer de creuser sur l'influence de cette inconscience sur notre quotidien. Et finalement, plus on peut être heureux parce que plus on est en contact avec soi-même, plus on est en lien avec soi-même, avec quelque chose de profond en nous qui nous aide à nous accepter, à accueillir ce qui vient et finalement nous rendre plus heureux.
C'est ça. Il y a vraiment une dimension, je trouve, hein, de libération. De libération à des blessures, à des douleurs aussi, qui se fait par l'inconscient. Donc ça, c'est très fort parce qu'on se rend compte qu'on a une mémoire hein, émotionnelle qui va être même un patrimoine, hein, qui peut être aussi vraiment transmis par des générations avant nous. Et cette compréhension, à un moment donné, qu'on a tout ça en nous, on a toute cette mémoire émotionnelle en nous, que l'on porte, qui appartient même à d'autres, hein, avant nous. Donc, c'est d'intégrer qu'on a tout ça et qu'à un moment donné, le fait de libérer ce trop-plein émotionnel va nous amener à vivre plus librement et avec peut-être plus de joie. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr que la joie, elle arrive aussi démultipliée. Plus on se libère de chaînes, d'émotions qui sont douloureuses, plus on est libre, en fait, de vraiment accueillir la vie avec ce qu'elle a à nous amener.
Puissance de la résilience.
Oui. Oui, c'est ça, d'arriver malgré nos blessures, malgré parfois, hein, il y a des grandes blessures comme ça, autant il y a l'abandon, on peut revenir sur ces grandes blessures, il y a le rejet, il y a la trahison, l'humiliation, l'injustice, tout ça, on peut dire qu'il pourrait y avoir vraiment 5 blessures majeures. Et bien, peut-être le cheminement aussi de la vie, c'est d'arriver à libérer ces blessures pour être... voilà, toucher à cette félicité, à cette joie que personne ne peut nous retirer.
D'accord, donc il y a une relation entre fêlure et félicité, finalement.
Fêlure, oui, dans la blessure, c'est ça ?
Ouais. Eh bien, part fort là quand même, hein, dis donc.
Ah ben tu me lances là.
Ah ben oui. Alors dis-moi, plus concrètement, aujourd'hui, voilà, et en plus, cette émission, elle a lieu alors que moi je suis à Sartrouville, toi tu es en vacances du côté de Marseille, donc merci à la technologie qui nous permet d'être présents dans le même temps. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton bonheur ?
Alors aujourd'hui, à quoi ressemble mon bonheur ? Eh bien, c'est un état... parler de joie tout à l'heure, c'est ça pour moi derrière bonheur, il y a cet état de joie qui est durable. C'est-à-dire une joie que rien ne peut enlever. C'est cet état de joie intense en fait. Alors il y a une vibration, ça veut dire qu'il y a de l'énergie, ça veut dire qu'il y a de la danse, il y a aussi de la musique, il y a beaucoup de vibrations en fait quand on est vraiment dans ce bonheur-là. Moi, c'est ce que je peux ressentir.
Ça me fait penser à ce que Frédéric Lenoir appelle cette joie profonde et permanente. Finalement, c'est un état de bonheur.
Ouais.
C'est un état qui nous permet justement, en vivant une vie qui peut être une vie simple ou une vie pleine de rebondissements, une vie heureuse ou une vie avec des malheurs aussi, des ruptures, des difficultés, qui nous permet quand même de la traverser avec un sourire intérieur qui fait que voilà, on va porter un regard et surtout on va être projeté vers un avenir qui sera meilleur. Et comme ça, on vit mieux les moments de l'instant présent. C'est peut-être aussi ça. Ce que tu dis sur cette joie aussi, cette joie qui n'est pas forcément exubérante, quoi. D'accord, on peut avoir une joie profonde et avoir un visage impassible.
Oui.
Et justement, tu parlais de ton âge tout à l'heure. Et justement, est-ce que la notion de bonheur, tu as le sentiment qu'elle a changé avec le temps ?
Oui, parce que ce que j'ai appris, c'est qu'il y a eu des j'ai vécu des bouleversements dans ma vie, hein, notamment la relationnelle avec une séparation. C'est vrai que ça a été un moment pour moi où j'ai vraiment vécu un vrai tremblement de terre, en fait, hein, du jour au lendemain, c'est très très rapide. Et j'ai compris à ce moment-là que le bonheur, ça dépendait pas de quelqu'un qui partageait notre vie, ça dépendait pas de l'autre, en fait, ni de son amour, ni de sa présence. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais 35 ans. Là, ça a été vraiment un saut pour moi, parce que j'ai saut dans le sens où il y a une évolution, j'ai appris à m'aimer davantage, à prendre soin plus de moi à ce moment-là. J'ai compris qu'il y avait un bonheur qui était vraiment intérieur, quoi, intérieur. Et c'est là où j'ai appris aussi, j'ai découvert le yoga, j'ai découvert les chants, en fait, aussi, qui étaient des mantras, j'ai découvert la vibration qui était en moi, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup fait évoluer. Mmh. Et là, j'ai compris que le bonheur, il était là, il ne me manquait rien, et puis ça m'a mis vraiment aussi à casser cette croyance qu'on pouvait à un moment se sentir seul, parce que c'était en fait une croyance, parce qu'on n'est pas seul, en fait. On n'est jamais seul, parce qu'on se relie, si on se relie.
Ou on est toujours seul.
Ben pour moi, il y a cette connexion, en fait, c'est que ça m'a appris à me connecter plus, vraiment plus à cette dimension supérieure, hein, spirituelle, remettre aussi dans l'humilité de la personne que j'étais, dire je peux peut-être pas tout comprendre maintenant dans ce qui m'arrive, je suis en train de traverser un bouleversement, j'ai envie de tout s'effondre, mais je comprendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant j'ai senti que voilà, j'avais à me relier, quoi, j'avais à me relier à la vie, à tout ce qui était extraordinaire, en fait, et plus grand que moi. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur le bonheur, en fait, cette épreuve.
Et oui, parce que il a sa source à l'intérieur, le bonheur. Et souvent, on pense justement que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux. L'extérieur pour nous donner du plaisir, et c'est bon le plaisir aussi, hein, ce fameux bonheur, on va dire, qui est hédonique, où en effet, c'est très agréable aussi, les plaisirs qu'on peut avoir, qui sont souvent liés avec quelque chose d'extérieur. Ouais. Par contre, oui, le bonheur, le long bonheur, le bonheur profond, celui qui nous relie, comme tu dis, et quand tu parles de vibration, ça me parle beaucoup, puisque on dit bien, voilà, c'est se sentir en phase aussi, hein, comme en électricité, avec des phases qui sont bien ensemble, se sentir vraiment à la même fréquence, vibrer à la même fréquence, se sentir aligné aussi avec soi-même. Enfin, on parle vraiment de, on retrouve toujours ces métaphores autour de la vibration, autour de, finalement, c'est aussi un son, c'est aussi une lumière. Donc se sentir en harmonie avec soi-même. Bien, écoute, l'harmonie, musique, chant, tu en as parlé, il est peut-être temps de passer le titre que tu as choisi. Alors quand je dis le titre que tu as choisi, je vais prévenir tout de suite les auditeurs, en fait c'est le premier titre que tu as choisi, parce que je t'ai demandé un, tu m'en as donné deux bien sûr, et donc le deuxième on l'entendra à la fin de cette émission à la place de ma playlist. Et donc voilà, je laisse les auditeurs découvrir le titre. Et ensuite, eh bien, nous allons en parler.
Thank you.
Alors, cette chanson, est-ce que tu peux nous la décrire ?
Alors, écoute-moi, cette chanson, elle m'amène le soleil. Je l'ai entendue il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis arrêtée. Comme tu sais, tu as des moments, tu as des chansons qui t'arrêtent, quoi. Qui t'arrêtent, tu ne peux plus rien faire d'audure. Ouf ! Et moi, ça m'a fait ça, cette chanson. C'est cette voix. Là, je sens la douceur, je sens l'amour, je sens dans cette voix vraiment quelque chose d'hyper agréable. Et puis derrière, les musiciens qui sont en acoustique, où tu as en fait des cordes, il y a des instruments à vent, il y a de tout, quoi. Il y a des percussions. Et moi, ça m'emmène vraiment au soleil, quoi. Ça m'emmène dans cette
lumière. C'est un voyage. Donc la chanteuse s'appelle Oum.
Oui.
Comme Oum Khalsoum. Et la chanson s'appelle Lik.
Alors, voilà, je connais pas plus cette chanteuse, si tu veux, mais voilà, elle me touche, je parle pas arabe du tout, mais pour le coup, je sais, j'ai vu un peu dans les paroles, c'est j'arrive avec le cœur ouvert à toi, et ça me parle de ça, en fait, de cette ouverture du cœur, c'est de l'amour, hein, dit je te donne tout de moi, il y a vraiment cette ouverture du cœur dans cette chanson pour moi. J'en connais que ça, mais voilà, ça me traverse et ça me donne la joie, ça me donne le sourire, vraiment. Ah ouais.
Alors c'est vrai que même sans comprendre la langue, voilà, on comprend que ça parle d'amour, c'est clair.
Ouais.
Alors dis-moi, dans cette deuxième partie, j'aime bien aussi inverser quelquefois les rôles et là, je me mets moi en situation de ne pas savoir ce qui va arriver.
Ouais.
Est-ce que tu aurais une question que tu souhaiterais me poser ?
J'aurais envie de te demander, faire une grande projection dans le temps, c'est-à-dire au siècle prochain, on est en 3020. On est en 3020, comment tu imagines le bonheur en 3020 ? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient changé pour toi ?
Est-ce que quelque chose aura changé pour moi ? Alors, pour moi, probablement, oui, beaucoup.
Dans l'approche du bonheur. Hein, déjà.
Après, est-ce que l'approche du bonheur... Alors, je vais faire une petite pirouette. Je dis, si je pouvais me projeter 1000 ans en avant pour savoir si la notion du bonheur a changé, je peux me poser la question, est-ce qu'elle a changé depuis 1000 ans, par exemple ? Est-ce que les réflexions sur le bonheur... Il y a 1000 ans, en 1020, donc on était en plein Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Mmh. Est-ce qu'il y avait déjà cette réflexion-là sur le bonheur ? Il y a peu de philosophes de cette époque-là, on en trouve plus sur l'Antiquité, et puis ensuite à partir du siècle des Lumières. Mais du coup, si on repart carrément à les 2000 ans en arrière, cette fois-ci, est-ce qu'on parlait encore du bonheur ? Est-ce qu'on parlait déjà du bonheur ? Et oui, moi, ce qui m'a surpris en lisant les textes, mais vraiment les plus anciens, voilà, j'aime beaucoup Marc Aurèle, j'aime beaucoup ces philosophes, voilà, Épicure et autres. Et après, on n'y a plus beaucoup jusqu'à ce qu'on arrive au grand Spinoza, mais en tout cas, il y avait déjà ce questionnement sur le bonheur, sur le plaisir, sur les efforts pour obtenir quelque chose, sur... voilà, toutes ces notions, elles étaient déjà là. Ce questionnement, voilà, finalement, qui suis-je et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer moi, pour améliorer le monde, pour comprendre ce qui se passe, pour trouver ma place, ces questions, elles étaient déjà là. Et c'est vrai que si on prend mon métier qui est le coaching, dans le coaching, il vient puiser dans cette tradition qui est très ancienne, parce qu'il y a plus de 2000 ans déjà, il existait la maïeutique, qui était l'art, en effet, de savoir poser des questions pour obtenir quelque chose de quelqu'un que la personne n'était pas forcément consciente de proposer à l'instant. Donc, je dirais, si je me projette dans 1000 ans, et si dans 1000 ans, les êtres humains sont encore sur Terre, si on n'a pas abîmé notre belle planète...
Oui.
Je pense qu'on se posera toujours la question. Finalement, c'est quoi le bonheur, quoi ? Et on se la posera toujours.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de réponse absolue.
Ouais. Auquel je t'amenais dans cette question, c'est on vient de passer une période Covid qui n'est pas terminée, hein, en disant qu'il y a ces épidémies comme ça. mondiale comme il y en a eu auparavant. Mais en tout cas, il y a une rapidité aussi de pandémie hein, qui se propage maintenant encore plus vite et encore plus loin qu'avant. Et se dire, voilà, dans ce monde qui peut peut-être devenir sanitairement de plus en plus compliqué, est-ce que cette question aussi du lien à l'autre, du bonheur, du lien au monde qui nous entoure, elle se ferait encore de manière plus accrue, plus consciente, tu vois?
Je pense qu'elle se posera toujours. Est-ce que là, on vient de vivre une situation inédite avec la technologie, les voyages ont accéléré une situation qui serait assez très, très régionale, très locale il y a encore 1000 ans ou 2000 ans.
C'est ça.
Donc, dans 1000 ans, peut-être, ça voyagera encore beaucoup plus. Et donc, il y aura peut-être encore plus. Mais ça veut dire aussi plus d'échanges. Enfin, moi, je suis un indécrottable optimiste. Donc, je me dis que. Oui, le prix à payer, finalement, c'est cette pandémie, mais c'est le prix à payer aussi de tous nos échanges, de toutes ces interactions qui existent aujourd'hui, de tout ce lien qui existe aussi. Et qu'on a démontré à la fois notre fragilité pendant cette période, mais on a démontré aussi notre force, notre capacité à être solidaire, notre capacité à réfléchir, à remettre en question les paradigmes du moment et de se dire, oui, ben, la logique d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la logique de demain. Alors, il y a toujours des effets de balancier, il y a eu de grands rêves qui ont été faits en parlant du monde d'après. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que voilà, ces grandes révolutions ne sont pas forcément présentes. Mais moi, je crois qu'on en retient à chaque fois quelque chose. Toujours, je pense, voilà, je reviens sur la résilience, mais voilà, à chaque fois qu'on vit une situation difficile, tu as parlé tout à l'heure de rupture amoureuse, mais toutes les ruptures, finalement, c'est ça qui nous fait grandir. Quand on regarde, quand on jette un œil dans le rétroviseur de notre vie, on ne voit pas les moments des grands fleuves tranquilles. On voit les moments, en effet, où il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de positif, une naissance, un changement de région, quelque chose qui nous fait du bien, un changement de métier, etc. Mais à chaque fois, on se dit, mais à chaque fois, c'est un peu démarré dans la douleur, cette histoire-là. Et quand on voit, en effet, tout ce qui nous est arrivé de bon, au départ, il y a eu quelque chose qui n'était pas forcément positif. Et en effet, pour moi, je pense, en tout cas, sincèrement, mais c'est une de mes croyances aidantes, en tout cas pour moi, qui est justement que toutes ces difficultés, que toutes ces ruptures sont des ressources et sont des moments où nous grandissons, c'est-à-dire où nous nous transformons positivement. Et si on sait en tirer quelque chose, eh bien voilà, on atteint un niveau après de conscience, de sérénité, de sagesse, de bonheur, tout simplement, un peu plus important. Alors, ça c'est la question que tu m'as posée. Je ne sais pas si je m'en suis sorti correctement, j'espère. Est-ce que ma sophrologue. Le temps passe et moi j'aimerais aussi te poser une autre question inédite, comme ça peut-être, c'est seulement est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose?
Quelle question j'aurais aimé que tu me poses? Le lien avec comment le bonheur se relie à l'ouverture du cœur. Il y aurait peut-être quelque chose comme ça.
Le bonheur se relie à l'ouverture du cœur. Alors dis-moi un peu d'après toi.
Parce que cette question, pour moi, elle est en lien vraiment. C'est-à-dire que ouvrir son cœur, c'est pouvoir abaisser bien certaines croyances qui nous referme, qui nous renferme sur nous-mêmes, et c'est s'ouvrir en fait vraiment aussi à la magie de la vie, c'est ouvrir son cœur à tout ce qu'il y a là à accueillir tel que c'est, comme ça vient, et ça je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose d'important quoi, de dire derrière le bonheur pour moi il y a aussi cette ouverture à développer, et puis ça peut prendre toute la vie. Hein. Ça va prendre toute la vie. On a quoi faire sur ces plans.
D'abord, nous mettons une vie à nous connaître. Donc, chaque jour, on progresse si on en a envie, si on en est conscient aussi, hein, dans cette connaissance de soi. On va passer à la séquence surprise. Donc là, tu es à distance. Alors, je te montre je te montre le dos, pas les mots qui sont sur les, sur les cartes du bonheur. J'en ai un peu plus de 100 comme ça. Et donc, voilà, je te les montre ici. Donc, si tu me donnes un chiffre entre 1 et 100, par exemple, je peux choisir la carte correspondante et ça sera le hasard. Et donc, cette carte va donner un mot et voilà, tu m'indiqueras quel est le lien entre ce mot pour toi et le bonheur.
D'accord.
Alors,
je vais te dire 40.
40, eh oui, 40, c'est un chiffre important pour toi. Hein. Donc, 1, 10, 15, 35. Et voilà, la carte numéro 40. Alors, je te la montre. Mmh. Et la carte numéro 40, elle s'appelle Estime de soi.
Estime de soi, oui.
Tu parlais de lien, tu parlais de liaison, d'interaction. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque en termes de bonheur, l'estime de soi pour toi ?
Bien, ça me parle de l'amour qu'on porte pour soi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui a été très fort parce que je me suis rendu compte à un moment aussi... voilà, de fragilité, combien j'étais dure avec moi, combien je me demandais beaucoup, combien je me donnais de reproches, en fait, de manière inconsciente. J'aurais pu. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment... ce bavardage-là, il a été persistant, il est bien moins fort maintenant. Pour autant, par moments, il ressort. C'est de comprendre que vraiment il y a eu ce passage vraiment vers la petite fille intérieure de moi, hein, qui voulait encore être à la hauteur, se faire aimer, être considérée, être reconnue. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment des blessures à cicatriser. Et puis moi, par contre, je peux vraiment m'aimer davantage, vraiment faire quelque chose de... Pour moi, là, c'est de m'aimer tel que je suis, de considérer que je suis un enfant de la vie, que je suis née, que je suis là et que je peux me reconnaître vraiment dans ce génie d'être là, quoi, d'exister. Et ça a été, voilà, ça me parle de ça aujourd'hui, c'est reconnecter à moi, à l'amour que je pouvais me porter et puis. Après ça, ça a été vraiment me reconnecter au miracle de la vie, quoi. Je suis un miracle. Je suis un miracle parce que je suis en vie, parce que je suis là. Et de me considérer comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça a été une
forme c'est de beau, révolution. Hein. J'aime beaucoup aussi ce mot de se considérer déjà, de se porter à soi de la considération. Alors, nous continuerons cette conversation.
Ouais, avec grand plaisir.
Parce que c'est l'heure du conte et c'est ce que font deux amis en effet quand ils ont une conversation, c'est que il la continue. Je propose un conte. Ce conte s'intitule Les deux amis. Cette histoire nous raconte que, lors d'une certaine occasion, deux grands amis décidèrent de traverser le désert. Ils se faisaient totalement confiance et savaient qu'ils ne trouveraient pas meilleure compagnie. Cependant, ils commencèrent à être fatigués et leurs opinions se mirent à diverger. Ils passèrent du désaccord à une dispute et de la dispute au débat enflammé. La situation atteint un tel point qu'à un moment donné, l'un des deux amis frappa l'autre. Il se rendit compte ensuite de son erreur et lui demanda pardon. Celui qui avait été frappé écrivit alors dans le sable « Mon meilleur ami m'a frappé ». Ils poursuivirent leur chemin et finirent par tomber sur une étrange oasis. Alors qu'ils s'en approchaient, le sol commença à bouger. L'ami qui avait été frappé commença à s'enfoncer. C'était une sorte d'étang de sable mouvant. Son ami fit alors tout son possible pour lui sauver la vie. Et elle finit par le sortir de cet endroit dangereux. L'ami qui avait été frappé, puis sauvé, écrivit donc sur une pierre « Mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». L'autre le regardait avec curiosité. Alors il lui expliqua. Entre amis, les offenses ne s'écrivent que pour être emportées par le vent. En revanche, les faveurs doivent être gravées pour ne jamais être oubliées. Nous arrivons à la fin de l'émission. Eh bien, c'était Jean-Marie Marcos avec Géraldine Marié pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre, non pas de ma playlist de bonheur, mais un deuxième titre proposé par Géraldine. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, je peux le dire avec moi, soyez
heureux. No gas is in my tank, and I've got myself to thank. I had to make $10 last for 3 weeks and a day. All of my bills are due, I don't know what I'm gonna do. I gotta keep it moving till I get to my breakthrough.
Sunshine too.